Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Une idée jaillit-elle du mouvement? La pensée se dessine-t-elle hors d'elle-même? Les théories se fabriquent-elles mieux en dehors des laboratoires, des bibliothèques et des pages blanches? En cette semaine d'exploration sur France Culture, les chemins de la philosophie prennent aussi la route et s'arrêtent aujourd'hui en Amérique du Sud.
Il y a plusieurs sortes d'explorateurs suivant la façon dont ils utilisent ce goût de l'exploration. Il y a celui qui vient au club des explorateurs à une certaine époque, poussé par l'aventure, il fait son exploration. Après, il fait autre chose. Ça a été mon cas. Moi, j'y suis allé. Je suis allé en 46 dans le Spitzberg. Puis, je suis allé en Terre Adélie. Bon, ça fait 4 voyages. Ça m'a amené jusqu'en 53, jusqu'à mon mariage. Après, j'ai pu parler d'exploration pendant des années. Il y en a d'autres qui le font dans le cadre de la recherche scientifique qu'ils ont, et pour eux, c'est un des éléments de leur recherche, ça s'inscrit dans leur recherche. Ils sont heureux en général d'avoir fait quelque chose qui sortait du laboratoire et que leur a donné un élan dans la vie. Et puis, il y a une troisième catégorie. Alors, il y a eu quelques anciens explorateurs, là ça mériterait de prendre quelques cas précis, qui, parce qu'ils étaient riches, ils étaient de famille riche, ils ont été faire le tour de l'Afrique en moto d'exploration en utilisant leur fortune, etc. Mais là aussi, j'estime que la marque essentielle, c'est quand même le goût de l'aventure.
Bonjour Philippe Descola.
Bonjour.
Bienvenue. Vous êtes anthropologue, professeur au Collège de France dans la chaire d'anthropologie de la nature. Vous avez voyagé, exploré, parcouru le monde, l'Amazonie équatorienne notamment, vous nous raconterez. Comment vous est venu à vous le goût de l'exploration? Est-ce que, comme le raconte le compagnon de route de Paul-Émile Victor, Yves Valette, est-ce par goût de l'aventure, curiosité ou facilité peut-être d'argent?
Oh, le goût de l'aventure, je pense que on serait hypocrite, nous les anthropologues, de ne pas dire qu'à un moment ou à un autre, c'est un puissant ferment qui nous pousse à bouger. J'étais, moi, fasciné par les autres, j'avais le goût des autres, comme on dit, et j'ai commencé à voyager assez tôt. J'ai eu la chance, étant enfant, d'avoir dans la bibliothèque de mes parents une revue qui s'appelait Le Tour du Monde, qui était un peu l'équivalent du National Geographic à l'époque, avec des très belles illustrations par des dessinateurs comme Ryu, qui étaient les mêmes illustrateurs que ceux qui illustraient les romans de Jules Verne. Et donc, pour moi, il n'y avait pas de solution de continuité entre les romans de Jules Verne et ses récits de voyage, aussi bien en Europe de l'Est qu'en Afrique ou en Amérique. Et j'ai été assez tôt fasciné par ces univers très différents du mien. Et j'ai commencé à, je sais pas, vers 17 ans. Oui, à 17 ans, la première fois que je suis parti en Amérique du Nord. J'ai travaillé dans une ferme de vison dans le nord du Canada. Et après, je me suis engagé sur un petit cargo sur les grands lacs. Bon, voilà, c'était des choses qui me fascinaient, de découvrir d'autres façons d'être, d'autres façons de vivre la condition humaine. Et l'anthropologie ou le goût pour l'ethnologie, disons, c'est-à-dire pour l'étude systématique d'autres communautés humaines, m'est venu petit à petit, s'est marié avec la pratique de la philosophie que j'avais commencé à découvrir aussi comme étudiant en philosophie, pour me décider à un certain moment de devenir véritablement un ethnologue. Et la différence, en somme, avec l'exploration que vous évoquiez à l'instant, c'est qu'un ethnologue, même s'il a le goût du voyage, comme c'était mon cas, à un moment, il se pose. Il reste dans un endroit, il partage la vie des gens pendant longtemps, il apprend leur langue si c'est nécessaire, il essaye de se faire discret, le plus discret possible, de façon à ce que les gens vivent normalement, en somme, en leur présence, et ils n'explorent pas. Et on peut dire d'une certaine façon que l'ethnologie a atteint son âge de sa maturité, lorsqu'on est passé en France de l'exploration à l'observation, ce qu'on a appelé l'observation participante, c'est-à-dire l'immersion de longue durée dans une communauté. Et ça s'est passé assez tard, plus tard que dans d'autres communautés scientifiques, plus tard qu'au Royaume-Uni en particulier, ou plus tard même qu'aux États-Unis.
Ça s'est passé à quel moment?
Ça s'est passé un peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Auparavant, les ethnologues faisaient des expéditions. Et alors, il y en a une qui est très célèbre, c'est l'expédition Dakar-Djibouti, qui a donné d'ailleurs des résultats extrêmement intéressants. Et puis, les ethnologues, des grandes personnalités comme Griol ou Liris qui y participaient, sont revenus ensuite dans les endroits qu'ils ont traversés. Mais l'idée, en somme, d'un voyage d'exploration était issue des grands voyages naturalistes du 18e et du 19e siècle, dans lequel on combinait des enquêtes à la fois sur le monde naturel, c'est-à-dire sur les plantes, sur les animaux, sur la géographie aussi, à la Humboldt en Amérique du Sud, et aussi sur les humains. Et donc l'intérêt est généralisé pour découvrir d'autres. C'était en fait un intérêt géographique plus qu'un intérêt véritablement ethnologique.
Il y avait une visée encyclopédique même de découverte du monde, de possession du monde entier, enfin d'embrasser en tout cas le monde en entier.
C'était quelque chose qui est très caractéristique de l'Europe, c'est-à-dire un désir combiné de savoir et de pouvoir, si je puis dire, c'est-à-dire de maîtriser la connaissance d'espaces lointains pour s'assurer la domination des peuples qui y vivent et des ressources qui y sont, les deux étant indissolublement liés d'une certaine façon. On ne peut pas dire qu'on a lancé des expéditions pour dominer, de la même façon on n'a pas dominé pour faire de la science. Les deux sont intrinsèquement liés depuis la première expansion coloniale, c'est-à-dire depuis le XVIe siècle et la conquête de l'Amérique. Et puis il y a eu un basculement, ce sont les Anglais qui ont inventé ce qu'on appelle le travail de terrain pour les ethnologues, c'est en particulier Malinowski, mais il y en a d'autres aussi de cette époque, c'est le plus connu. Il s'est fait déposer aux îles Trobriand en Mélanésie, où il a passé plusieurs années à vivre, partager la vie d'une communauté et à décrire la vie au jour le jour de cette communauté. Et ce mouvement a pris beaucoup plus de temps en France. Curieusement d'ailleurs, ce sont des femmes qui ont été parmi les premières à faire du terrain au sens anglais. C'est Denise Palm, par exemple, en Afrique. C'est Germaine Tillon en Afrique du Nord. Et après la Deuxième Guerre mondiale, ça s'est généralisé et on a abandonné cette idée qu'on allait explorer. Parce qu'au fond, on explore quoi ? On n'explore rien du tout, c'est-à-dire si on s'intéresse, comme c'est le cas des ethnologues, à des populations humaines, ces populations humaines, elles connaissent déjà, on n'explore pas des terres inexplorées, elles sont déjà parfaitement connues, et ce qui intéresse un ethnologue, c'est de savoir ce que les gens qui vivent dans un endroit savent à propos de cet endroit, notamment. Et donc cette idée d'exploration était extrêmement impérialiste
Le terrain commence là où l'exploration s'arrête d'une certaine manière, et l'exploration s'est arrêtée, on ne parle plus d'exploration aujourd'hui.
On ne parle plus d'exploration parce qu'il n'y a plus d'endroits qui soient inexplorés d'une certaine façon. Et puis s'il y a des endroits qui sont peu fréquentés, je pense en ethnologie, on parle régulièrement de ce qu'on appelle des tribus non contactées. C'est le cas en particulier à la frontière du Pérou et du Brésil. Mais ces tribus non contactées, en fait, ont déjà été contactées. Elles ont été contactées à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle par les milices des barons du caoutchouc. Elles ont subi des exactions inimaginables et depuis, elles filent contact. Et donc la moindre des sens exige qu'on n'aille pas embêter des gens qui ont déjà été martyrisés par des milices sanguinaires il y a un siècle et qui gardent un souvenir terrifiant des premiers contacts avec des Blancs. Mais c'est des cas exceptionnels, ils sont très très rares et tout ce qu'on peut faire, c'est ce que font les organismes, en particulier au Brésil, la FUNA, c'est d'essayer de créer des cordons de protection pour éviter que ces populations soient à nouveau soumises aux exactions des chercheurs d'or, des coupeurs de bois, etc.
Vous avez employé, Philippe Descola, les termes d'ethnologue et d'anthropologue. Quelle est la différence que vous faites entre ces deux termes ? Est-ce que vous considérez tout autant anthropologue qu'ethnologue ?
Oui, bien sûr. Au fond, c'est des grossissements différents dans les façons d'aborder la variabilité culturelle, si on veut. On est d'abord ethnographe. Ethnographe, c'est-à-dire que précisément, on fait pas de l'exploration,
mais on
pose son on pose son sac et on se fait adopter, si je puis dire, par une communauté humaine qui accepte de vous recevoir pendant longtemps, des mois, des années. Dans mon cas, ça a été presque 3 ans. Et dont on apprend la langue, dont on essaye de partager le mode de vie. Dans la plupart des cas, d'ailleurs, il ne s'agit pas d'un essai, il s'agit d'une nécessité. Lorsque vous êtes complètement dépendant de vos hôtes, eh bien, vous façonnez votre corps par l'expérience même du partage d'un environnement. Vous habitez dans des maisons d'un type particulier, vous mangez la même nourriture que vos hôtes, donc vous vous adaptez à cela, vous apprenez à vous baigner dans une rivière, à faire vos besoins dans certains endroits, etc. Donc c'est un processus de socialisation analogue à celui que vous avez subi lorsque vous êtes enfant. Donc ça, c'est l'ethnographie. Et vous écrivez tout le temps, évidemment. C'est-à-dire qu'au début, vous posez des questions, et puis petit à petit, lorsque vous commencez à comprendre la langue de la population ou la scène de laquelle vous êtes installé, vous posez de moins en moins de questions, parce que ce que disent les gens, déjà, est une source d'information extraordinaire dans les conversations les plus courantes. Et ça, c'est donc l'ethnographie. Graphée, vous écrivez tout le temps ce que vous observez. L'ethnologie, c'est un début de systématisation de cela. Donc, tous les ethnographes deviennent des ethnologues. Et ils font des monographies assez souvent sur des populations au sein desquelles qu'ils ont étudiées. Mais ces populations peuvent être de nature très diverse. Moi, les circonstances ont fait que je me suis retrouvé dans une tribu de la haute Amazonie qui avait connu les premiers contacts pacifiques peu de temps auparavant.
Mais c'était à la fin des années 70 que vous êtes parti.
C'était en 76. C'est des gens qui s'appellent les Achuars, font partie de l'ensemble linguistique Jivaro. Donc les Jivaro, c'est assez, le terme est connu. C'était des gens très belliqueux. Ils le sont encore, disons, ils ont la tête près du bonnet, disons, et ils défendaient assez légitimement leur territoire contre toutes les tentatives de spoliation auxquelles ils étaient exposés. Dieu sait si elles étaient nombreuses. Et donc, ils avaient réussi à maintenir leur indépendance. Et pour moi, c'était évidemment quelque chose d'extraordinaire de partager la vie de gens qui vivaient selon leurs propres lois. C'était très rare. Encore à l'époque, c'est devenu, je crois, pratiquement impossible maintenant à trouver sur la planète, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans la dépendance, même lointaine, d'un État. L'État équatorien avait décidé, c'était en Équateur, donc à la frontière d'Équateur et du Pérou, en haute Amazonie, et l'État équatorien avait décidé de les laisser là, et de pas intervenir dans leur vie. Et donc, c'est un privilège inouï. C'est comme si un historien, tout d'un coup, était... C'est une métaphore qu'on utilise parfois, il faut la prendre avec précaution, bien sûr. Mais imaginez un historien qui, tout d'un coup, serait parachuté dans la cour de Louis XI. C'est un rêve. Et d'une certaine façon, c'était un peu la même chose. C'est-à-dire que je n'avais pas les médiations habituelles. C'était une société dans laquelle il n'y avait pas de travail salarié, il n'y avait pas d'argent, les échanges se faisaient uniquement à l'échelle des liens.
De troc aussi.
Oui, c'est ça, des liens entre familles. Et ce qui m'intéressait dans cette enquête ethnographique, c'était de comprendre les rapports entre cette société et son environnement. Et c'est pour ça que j'avais choisi d'aller là. C'était pas simplement parce que c'était des Jivaro, parce que c'était une sorte de goût pour le primitivisme, mais c'était tout simplement parce que leur système d'usage de l'environnement avait été très peu transformé. Il y avait peu d'outils métalliques encore à l'époque, etc. Donc ça, c'est de l'ethnographie. L'ethnologie, c'est une systématisation de cela qui, en somme, essaye de tirer les enseignements d'une enquête ethnographique pour proposer un début de généralisation à des sociétés du même type, par exemple, des sociétés voisines. C'est ce que j'avais fait dans ma thèse de doctorat, que j'ai soutenue sous la direction de Claude Lévi-Strauss, pour essayer de montrer, par exemple, que dans cette partie du monde, en Amazonie, la distinction entre un usage disons, entre nature et culture, entre nature et société, n'avait guère de sens, à la fois pour parce que elle ne représentait rien pour les gens au sein parmi lesquels j'avais vécu, mais aussi parce que les techniques d'usage de la forêt, des jardins, établissaient une sorte de continuum entre l'univers domestique et l'univers de la forêt lointaine. Et donc ça, c'était un début de généralisation ethnologique, mais on peut s'intéresser aussi, par exemple, comme l'avait fait François Héritier, à des systèmes de parenté. Donc elle a fait un terrain. Donc je profite de cette occasion pour saluer sa mémoire. C'était une collègue et une amie, très récemment disparue, et elle avait fait un terrain en Afrique où elle avait étudié un certain système de parenté, et à partir de cette étude, elle avait commencé à travailler de manière très systématique sur ce type de système de parenté qu'on trouve aussi ailleurs, et à en tirer des conclusions plus générales. Donc ça, c'est l'ethnologie, c'est un première généralisation.
En fait, on est ethnographe sur le terrain, oui. Ethnologue en revenant
d'une certaine façon,
du
quand
terrain.
On décrit à partir des données ethnographiques que l'on a accumulées sur le terrain.
Et quand on construit une théorie à partir de cette ethnologie, à partir de ces généralisations, on devient anthropologue.
On devient anthropologue, c'est-à-dire, alors, c'est pas nécessairement par le biais de la construction d'une théorie. Disons qu'un anthropologue, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux propriétés formelles de la vie sociale et qui s'efforce de les comprendre à l'intérieur d'un modèle. Alors, ça peut être une théorie, mais la plupart du temps, c'est des corrections de trajectoire par rapport à des théories existantes. Mais certains ethnographes et ethnologues, n'ayant pas d'intérêt pour, disons, la construction de modèles ou pour la réflexion philosophique ou pour le travail théorique, demeurent d'excellents ethnographes et ethnologues. Il n'y a pas une échelle de dignité croissante.
C'est pas une ascension que je viens de décrire.
C'est pas une ascension, c'est simplement, c'est des façons très différentes d'aborder la condition humaine, puisque l'anthropologie n'est pas inductive. À la différence, l'ethnologie, on observe et on infère à partir de ce que l'on a observé quelque chose.
Des lois peut-être même.
On en tire des conclusions provisoires. Mais à propos d'un champ de phénomènes limité. Encore une fois, ça peut être l'usage de la nature, ça peut être des systèmes de parenté.
Les mythes, les normes alimentaires.
C'est des choses comme ça. Mais à l'intérieur d'une région relativement délimitée, dont on maîtrise en quelque sorte, sur laquelle on maîtrise des informations. Alors que l'anthropologie, c'est plutôt hypothético-déductif. C'est-à-dire, on pose des grandes hypothèses. C'est pour ça que je parlais d'une étude des propriétés formelles de la vie sociale. On pose des grandes hypothèses sur la vie sociale, et ensuite, on regarde dans la littérature ethnographique, mais aussi dans la documentation historique, si ces hypothèses sont validées ou pas.
Je hais les voyages et les explorateurs. Et voici que je m'apprête à raconter mes expéditions. Mais que de temps pour m'y résoudre. 15 ans ont passé depuis que j'ai quitté pour la dernière fois le Brésil, et pendant toutes ces années, j'ai souvent projeté d'entreprendre ce livre. Chaque fois, une sorte de honte et de dégoût m'en ont empêché. Et quoi ? Faut-il narrer par le menu tant de détails insipides, d'événements insignifiants ? L'aventure n'a pas de place dans la profession d'ethnographe. Elle en est seulement une servitude. Elle pèse sur le travail efficace du poids des semaines ou des mois perdus en chemin, des heures oisives pendant que l'informateur se dérobe, de la faim, de la fatigue, parfois de la maladie, et toujours de ces 1000 corvées qui rongent les jours en pure perte et réduisent la vie dangereuse au cœur de la forêt vierge à une imitation du service militaire. Qu'il faille tant d'efforts et de vaines dépenses pour atteindre l'objet de nos études ne confère aucun prix à ce qu'il faudrait plutôt considérer comme l'aspect négatif de notre métier. Les vérités que nous allons chercher si loin n'ont de valeur que dépouillées de cette gangue. On peut certes consacrer 6 mois de voyage, de privation et d'écœurante lassitude à la collecte qui prendra quelques jours, parfois quelques heures, d'un mythe inédit, d'une règle de mariage nouvelle, d'une liste complète de noms claniques. Mais cette scorie de la mémoire À 5h30 du matin, nous entrions en rade de récifs, tandis que piaillaient les mouettes et qu'une flottille de marchands de fruits exotiques se pressait le long de la coque. Un si pauvre souvenir mérite-t-il que je lève la plume pour le fixer ?
Les périodes de mes voyages dans l'intérieur du Brésil, ce sont les plus belles années de ma vie. Quand j'ai écrit « Je hais les voyages », je dirais une expression polémique, qui est tout de suite expliquée par la suite. Je voulais me désolidariser de cette vogue des voyages et des explorateurs, des conférences de la salle Pleyel, enfin on sait plus ce que c'est aujourd'hui. Je voulais montrer que pour l'ethnologue, le voyage n'est pas un but, que c'est un moyen indispensable, et que ce qui compte, ça n'est pas du tout... côté touristique, si vous voulez, c'est ce que nous rapportons de connaissances et d'informations.
On vient d'entendre Philippe Descola, c'est le fameux incipit de Triste Tropique de 1955, donc de Claude Lévi-Strauss, interprété par Yvan Morane. Et puis l'explication que Lévi-Strauss en donne lui-même à Bernard Rapp, c'était sur Antenne 2 en 1991. On y entend cette phrase, le voyage n'est qu'un moyen dans l'élaboration d'une pensée anthropologique. Dans votre cas, Philippe Descola, qu'a représenté ce voyage en Amazonie dans votre recherche ? A-t-il été seulement un moyen ?
Oui, vous permettez de revenir d'abord sur, sur cette fameuse formule de Lévi-Strauss qui a toujours suscité beaucoup de discussions. On se souviendra peut-être que Paul Rivet, qui était le pape de l'américanisme et même d'une certaine façon de l'ethnologie, puisqu'il était le directeur du musée de l'homme à l'époque, avait refusé l'entrée de son salon à Claude Lévi-Strauss après qu'il eut écrit cette phrase. Ce que Lévi-Strauss avait à l'esprit, il l'a dit fort bien ensuite, c'est cette littérature de voyage bavarde, insipide et superficielle, qui était si commune à l'époque et qui a un peu disparu maintenant du fait... précisément d'abord du tourisme de masse, c'est-à-dire qu'on peut aller maintenant très facilement voir par soi-même dans des régions extrêmement différentes du monde, et puis grâce aussi aux documentaires de la télévision qui vous transportent dans toutes ces régions. Moi, je m'y suis frotté à cette littérature pour une raison bien simple, c'est que avant de partir sur le terrain, avant de partir en Amazonie, donc j'allais dans un groupe Jivaro. On ne savait pratiquement rien de ce groupe Jivaro. Il y a plusieurs tribus Jivaro, donc, et il y avait des informations ethnographiques sur des voisins de ce groupe qui parlaient un autre dialecte Jivaro, mais rien sur celui où je comptais m'établir. Et j'ai donc lu à peu près, de façon à peu près exhaustive, non seulement l'ethnographie dont on disposait sur l'ensemble Jivaro en général, mais aussi une partie de cette littérature de voyage, et qui était effectivement consternante, c'est-à-dire c'était...
Consternante pourquoi ?
Elle était consternante parce que c'était les mêmes anecdotes éculées que les auteurs recopiaient les uns les autres, c'est exactement ce que dit Lévi-Strauss, arrivé dans le port de Recife, etc. On n'apprenait rien d'intéressant, personne n'avait pris la peine toute simple d'apprendre ne serait-ce que quelques mots de cette langue. Et donc, c'était
comme dans les guides de voyage où on donne au moins quelques
informations, et donc c'était toujours les mêmes c'était les mêmes anecdotes éculées, etc. Ce que le voyage apporte, c'est pas tellement le voyage, c'est de frotter sa cervelle à la cervelle des autres, comme disait Montaigne, c'est de partager la vie de gens qui tout d'un coup font basculer vos certitudes, j'allais dire épistémologiques ou philosophiques de ce que j'étais à l'époque, c'est-à-dire quelqu'un qui sortait d'une formation en philosophie, qui avait pris l'habitude de voir le monde à travers des concepts que l'on m'avait enseigné à respecter, et qui tout d'un coup voyait, c'était aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait de l'ethnologie, c'est ça, c'était pour sortir aussi d'une certaine façon de poser des problèmes qui me paraissaient beaucoup trop eurocentrés. Et là, j'ai été servi, c'était, je suis arrivé dans une société dans laquelle, alors je parle de société par commodité, mais c'était donc des Amérindiens dispersés dans une forêt où ils étaient très peu, qui entretenait des rapports quotidiens avec les plantes et les animaux, en communiquant avec eux dans leurs rêves, en leur chantant des incantations magiques, et qui donc maintenait un discours permanent avec ce que j'appelais encore à l'époque la nature, qui n'avait pas de village, qui n'avait pas de chef, qui n'avait pas de groupe de filiation, qui n'avait aucun de ces appareils identifiables et aisément pour un ethnologue au sein duquel se déroule la vie sociale, et qui donc paraissait au fond sorti d'une description de l'état de nature plutôt selon Hobbes que selon Rousseau, parce que c'était guerrier par ailleurs. Et donc là, j'étais plongé dans un monde pour lequel je n'avais pas de point de repère, tout simplement.
Et comment êtes-vous passé en fait aussi de la philosophie à l'anthropologie ? Est-ce que déjà vous ressentiez ce manque, cette aridité des concepts philosophiques qui manque justement de se frotter à la cervelle de quelqu'un d'autre ? C'est ça qui vous a poussé ? Et pourquoi aussi l'Amazonie ? En fait, pourquoi ce choix finalement de partir en Haute-Amazonie ?
Alors le choix, il était pour répondre sur la philosophie, je suis pas le premier ni le dernier, parce que beaucoup de mes étudiants d'ailleurs sont des philosophes, j'allais dire défroqués ou réformés ou en tout cas qui ont choisi d'être philosophes d'une autre façon en allant examiner la façon dont d'autres civilisations posent des problèmes que l'Occident, pour employer un terme un peu général, n'avait pas envisagé.
Et il n'y a pas une frontière si rigide entre philosophie et anthropologie ou sociologie.
Non, bien sûr, c'est d'ailleurs l'une des grandes caractéristiques de l'anthropologie française, par contraste avec d'autres grandes puissances anthropologiques comme le Royaume-Uni ou les États-Unis. L'Allemagne, c'est un cas très particulier sur lequel je m'étendrai pas. Depuis la fin du 19e siècle, tous les grands auteurs dans les sciences sociales, et pas simplement en anthropologie. Durkheim était philosophe, Mauss était philosophe, et donc régulièrement, à chaque génération, des philosophes ont senti l'appel du large, c'est-à-dire pas peut-être l'appel de l'aventure, sans doute, oui, une certaine forme d'aventure, mais cette aventure, c'est pas l'aventure de l'exotisme, c'est l'aventure, au fond, de vivre au quotidien des façons de vivre la condition humaine très différentes de celles auxquelles on était accoutumé. Donc ce choix, il implique que on réforme, quelquefois on met à la poubelle les concepts dont on pensait qu'ils étaient, d'une certaine façon, qu'ils avaient un certain degré d'universalité. Parce que même quand on est critique et qu'on décide donc de changer de métier et devenir ethnologue après avoir été philosophe, le poids de ces concepts est tellement fort que l'on regarde la réalité qui se présente sous vos yeux à travers ces concepts. C'est pas tellement qu'ils sont, vous disiez, des concepts qui sont pas tellement arides, c'est qu'ils ne sont pas adéquats à la description de ce que vous observez. Et donc, progressivement, vous êtes conduit d'abord à douter de leur validité universelle, et puis ensuite, vous êtes conduit, si vous avez un esprit porté à la réflexion philosophique, disons, eh bien, vous êtes conduit à les transformer ou carrément à en produire d'autres qui soient plus adéquats.
Comme vous avec la nature, par exemple, Philippe Descola.
Oui, par exemple.
Vous avez dit tout à l'heure, j'employais jusqu'alors, avant de partir, ce terme encore de nature. Et finalement, mon voyage m'a peut-être conduit à ne plus l'employer. C'est ça que vous entendiez.
Oui, exactement. C'est un grand paradoxe parce que moi, j'arrive, je suis un intellectuel urbain, bon, j'aimais les voyages, j'aimais marcher dans la montagne, etc. Mais j'étais quand même façonné par le monde
urbain. Par Normalsup.
Oui, par Normalsup, par un monde urbain. J'étais tout d'un coup, et j'avais choisi d'aller en Amazonie pour une raison bien simple, c'est que l'Amazonie était une sorte de scandale logique sur le plan des institutions, ou de leur absence, plus exactement. Il y a une chose qui est très frappante quand on lit les chroniques, c'est-à-dire quand on remonte en deçà de cette littérature de voyage que j'évoquais tout à l'heure, avant l'existence même de l'anthropologie, on a écrit des choses en Europe sur l'Amérique des basses terres. Et le leitmotiv de ce que l'on a écrit, c'est ces gens-là sont, pour reprendre l'expression classique qu'on employait à la Renaissance, sans foi, sans loi, sans roi. Et ils n'avaient aucune des institutions habituelles au moyen desquelles on avait l'habitude de comprendre, en somme, une organisation sociale. Il n'y avait pas de religion, il n'y avait pas de système, il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas de culte, et il n'y avait pas d'organisation politique classique, en tout cas aisément identifiable. Il n'y avait pas, je l'ai dit tout à l'heure, de groupe de filiation. Vous allez en Afrique, c'est simple, vous avez des lignages, vous avez des clans, vous avez des belles machines institutionnelles comme ça, vous avez des États, etc. Là, on n'avait rien. On n'avait rien que des gens dont on dit ce sont des appendices de la nature, d'une certaine façon. Et donc, ils avaient, à l'évidence, un rapport très particulier à ce que j'appelais encore la nature. Et c'est ça qui m'a conduit à tenter de comprendre ce qui se passait dans cette partie du monde. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'étudier, effectivement, les rapports entre cette société et son environnement. Et c'est là que j'ai découvert que ce que j'appelais la nature n'avait aucun sens. Et c'est un peu un paradoxe, parce que, intellectuel urbain, je débarque, c'était pas très loin des Andes, c'était à 250 km de la première route, disons, mais dans une région extrêmement isolée, et tout d'un coup, je suis parachuté avec ma compagne dans cet univers et en plein milieu de la forêt, dans des grandes maisons. Il fallait marcher 2 heures, 3 heures, quelquefois 2 jours pour aller d'une maison à une autre. Donc complètement isolé au milieu de la nature. Et je découvre progressivement que pour eux, c'est pas la nature.
C'est quoi ?
Et donc ça a été un choc. Bah, ce sont des êtres avec lesquels ils entretiennent au jour le jour des rapports d'intelligibilité. À travers des formes de communication diverses. Ce sont des êtres qu'on mange, hein, par ailleurs. C'est-à-dire, au fond, il y a de la ruse, il y a parfois des échanges de services. C'est un monde peuplé d'esprits, c'est-à-dire des indices à tout moment peuvent vous donner l'impression que vous allez rencontrer au détour d'un arbre tel ou tel esprit qui sera plutôt positif, ou en général plutôt négatif. Donc c'était un monde, bien sûr j'avais lu sur ce genre de...
Mais quand on y est
c'est complètement différent. Quand on lit les formes élémentaires de la vie religieuse de Durkheim, quand on lit le Rameau d'or de Fraser, quand on lit ces grands classiques, si vous voulez, d'anthropologie religieuse, eh bien, effectivement, il y a des esprits à toutes les pages, etc. Mais c'était comme le traité de la réforme de l'entendement. C'était des textes de philosophie. J'arrivais pas à m'imaginer qu'il y ait vraiment des gens qui vivent comme ça. J'ai mis quelques temps, et c'était lié en particulier, au défaut de maîtrise de la langue au début, à comprendre ce qui se passait, d'autant que la communication se faisait mentalement. Et donc, il est difficile d'y avoir accès. En revanche, elle se faisait mentalement par des chansons. Et donc, une fois que j'ai compris ça et que j'ai demandé à ce qu'on me chante les chansons et que je comprenne le sens de ces chansons, là, à ce moment-là, j'ai compris ce qui se passait.
Comprendre est le mot-clé, le plan intellectuel, parce que c'est, je crois, ce qui m'a toujours motivée dès ma petite enfance, comprendre ce qu'il y a derrière les apparences, derrière ce que l'on croit évident, derrière ce que l'on croit naturel, est-ce qu'il y a une autre manière de voir les choses. Et donc, comprendre implique à la fois une élaboration, une élucidation, une analyse, une perception et une analyse intellectuelle, et le mot implique aussi la compréhension. Quand on dit à quelqu'un « je te comprends, je t'ai bien compris », c'est-à-dire qu'on fait sienne les constatations d'autrui et les émotions d'autrui. Et donc comprendre, cette compréhension, c'est où s'ouvre, je dis, sur l'empathie tout simplement, c'est-à-dire cette capacité, parce qu'on a compris intellectuellement le fonctionnement d'une pensée, on est capable émotionnellement également d'en comprendre les conséquences.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, c'est la deuxième étape de notre parcours des semaines explorateurs des pensées en mouvement, une semaine spéciale sur France Culture également, et aussi donc dans les chemins de la philosophie, avec aujourd'hui Philippe Descola, anthropologue, qui nous fait découvrir le terrain de l'anthropologie. Philippe Descola, c'est la voix de Françoise Héritier que vous avez évoquée tout à l'heure. C'était une archive de 2013 sur RFI. Françoise Héritier, qui a disparu le 15 novembre, elle dit dans cette archive son attachement au fait de comprendre. Et vous aussi, vous avez employé ce terme-là. On oppose classiquement en philosophie comprendre et expliquer, ou du moins on les compare régulièrement. Sur place, vous avez tenté de comprendre comment ça se passe au quotidien pour tenter de comprendre quand on ne connaît pas la langue, quand il n'y a pas d'institution, quand il n'y a pas de point de repère.
Alors, on comprend pas vraiment quand on ne maîtrise pas la langue. Et ça, ça va de soi. J'étais parti, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'intention de comprendre comment cette société entretenait des relations matérielles et idéales avec son environnement. Et donc, les premiers temps, les premiers mois consacrés à l'apprentissage de la langue étaient aussi occupés parce que c'est un peu fastidieux de ne rien pouvoir comprendre.
Vous y êtes resté 3 ans à peu près.
Oui, à peu près 3 ans, puis je suis revenu après par la suite. Était beaucoup passé à des études de ce qu'on pourrait appeler d'écologie humaine, c'est-à-dire d'inventaire botanique, des espèces animales, de faire des inventaires dans les jardins, de mesurer des jardins, enfin de peser ce qui rentrait dans les maisons en termes de nourriture, de façon à faire des études de nutrition, vous voyez, des choses très techniques, un peu fastidieuses, mais qui permettaient de passer le temps. Et progressivement, c'est une image que j'emploie souvent, c'est comme de regarder un film dans une langue que l'on ne connaît pas sans sous-titres, et puis on est dans la situation d'un éthologue d'une certaine façon, c'est-à-dire que on interprète des comportements en fonction de ce que l'on projette sur ces comportements, et puis progressivement on en vient à avoir des bribes de sous-titres et à peu à peu mesurer ce qu'il en est de la vie quotidienne. Il se trouve que, à la différence de ce qui se passe dans d'autres régions du monde où on peut avoir des interprètes, ou parfois d'ailleurs grâce à l'INALCO, l'Institut des langues orientales, on peut même apprendre une langue avant de partir sur le terrain, la plupart des langues amérindiennes ne sont pas enseignées, et donc il faut l'apprendre sur place. Et il n'y avait pas de bilingue, où il y avait le choix que ma compagne et moi avons fait de nous établir là où nous avons commencé, c'est que nous savions qu'il y avait quelqu'un, on nous avait dit qu'il y avait quelqu'un qui avait travaillé dans une compagnie pétrolière qui connaissait quelques mots d'espagnol. Voilà, c'était l'amorce, si vous voulez, pour apprendre la langue. Et c'est petit à petit que l'on comprend, et l'on comprend d'abord pour soi. Je voudrais revenir là-dessus parce que je pense que c'est très important. Lorsqu'on est seul, loin de tout, alors nous avions la chance d'être deux, ma compagne et moi, et donc c'est probablement une situation plus facile, mais c'est quand même une situation difficile. Vous êtes entièrement dépendant de vos hôtes, et la moindre des choses, c'est d'apprendre à vivre comme eux. Il s'agit pas de les imiter. Moi, j'allais à la chasse, mais j'étais un très mauvais chasseur. J'avais un fusil, mais j'étais un très mauvais chasseur. Ma compagne travaillait dans les jardins avec les femmes, et elle réussissait beaucoup mieux que moi dans son domaine. Et au fond, c'est ce façonnage qui vous permet de ne pas commettre d'impair en particulier, c'est-à-dire ce que vous comprenez, vous l'utilisez d'abord au premier chef pour pas faire de bêtises, pour pas aller dans la partie de la maison, ça s'apprend assez vite, vous ne devez pas aller, pour appeler les gens correctement par leur terme de parenté.
Pour ne pas offenser par certaines manières.
Pour ne pas offenser vos hôtes, et parce que au fond, si jamais vous décidez de vous mettre à la porte, vous seriez très embêté, non seulement parce que c'est la fin de l'enquête ethnographique, parce qu'il faudrait marcher 12 jours pour revenir jusqu'à la première...
Donc avant de comprendre, il faut apprendre en fait.
Il faut apprendre et comprendre pour être capable d'agir comme un acteur compétent dans une société donnée. Et cette compréhension, elle devient une compréhension pour autrui. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on commence à faire comprendre à autrui, et ça c'est le travail de l'ethnologie, ou plutôt c'est cette transition entre l'ethnographie et l'ethnologie, quand on doit expliquer à sa communauté d'origine ce qu'il en est de la vie sociale dans cette communauté au sein de laquelle on a choisi de vivre. Et donc on comprend pour les autres, on commence par comprendre pour soi, parce que c'est un défi, parce que c'est indispensable pour la vie quotidienne, et puis ensuite pour essayer de faire comprendre à autrui.
Et à partir du moment où on commence à vouloir faire comprendre à autrui, est-ce qu'on est déjà dans l'explication ? Ce que j'entends par là, Philippe Descola, c'est comment se construit aussi une pensée ou une théorie dès le terrain ? Est-ce que l'idée, Françoise Héritier dit dans l'archive qu'on a entendue, Je voulais comprendre ce qu'il y avait derrière l'apparence des choses. Est-ce que déjà sur le terrain nous apparaît par la compréhension des structures, des manières d'agir invariables qui reviennent et à partir de là, on commence à façonner aussi une théorie, une explication ?
Oui, bien sûr. L'une des choses qui m'avait frappé, par exemple, sur le terrain, c'est que quand j'ai commencé à comprendre, justement, que les hachoirs entretenaient des rapports de communication constants avec les plantes et les animaux, c'est qu'ils n'avaient pas affaire aux mêmes plantes et aux mêmes animaux. C'est les hommes sont des chasseurs, et donc ils s'adressent essentiellement à l'âme des animaux chassés. Les femmes sont des horticultrices, elles travaillent dans ces jardins qui sont d'une grande complexité agronomique, agro-biologique, et où il y a jusqu'à une cinquantaine d'espèces cultivées différentes, plus des plantes transplantées, etc. Et elles règnent sur ce petit monde en s'adressant à leurs plantes et à l'âme de leurs plantes. Et donc, première chose qui frappe, effectivement, c'est que dans cette société qui, du point de vue de ce que nous appelons les systèmes de parenté, est gouvernée par ce qu'on appelle un régime dravidien, c'est-à-dire les affins et les consanguins sont très clairement distingués.
Et
c'est les personnes par alliance, c'est-à-dire c'est celles avec lesquelles on peut contracter une alliance et qui sont. Donc il y a des conduites qui sont prêtes, ça ne concerne pas que le mariage, il y a certains types de conduites qui sont prescrites avec ces personnes, on les appelle d'une certaine façon, et puis il y a les consanguins, ce sont ceux qui... qui sont les liens du sang, et donc c'est les deux catégories élémentaires en somme de la vie sociale. Et ce qui m'avait sauté aux yeux assez rapidement, c'est que ces deux catégories élémentaires, c'était les catégories élémentaires au moyen desquelles aussi les hachoirs communiquaient ou se répartissaient en somme le travail d'interaction avec des personnes non humaines, des plantes et des animaux pour l'essentiel. Les femmes avaient un rapport de consanguinité avec les plantes, les hommes avaient un rapport d'affinité avec le gibier. Donc ça, c'est une première généralisation. Cette première généralisation, elle m'a conduite ensuite, quand je suis revenu en France et que j'ai eu le bonheur d'être élu maître de conférence à l'école des hautes études, j'ai commencé donc à faire un séminaire de recherche et donc j'ai commencé à explorer au fond certaines des idées que j'avais eues sur le terrain pour rendre compte d'une situation ethnographique très singulière, pour voir si c'était la même chose ailleurs, et notamment ailleurs dans le monde amazonien. Par exemple, je me suis aperçu que cette façon de traiter les animaux comme des affins était quelque chose de très répandu dans le monde amazonien. Ça n'avait jamais été développé comme une idée générale. Mais quand on regardait les ethnographies qui avaient été faites, on voyait que c'était quelque chose d'extrêmement courant. Et je me suis aperçu ensuite que c'était quelque chose d'assez courant aussi dans d'autres régions du monde, parmi les populations amérindiennes du nord de l'Amérique du Nord, parmi les Inuits, en Sibérie, dans le nord de la Sibérie, etc. Et c'est là que j'en suis venu à me dire, bon, là, il y a une façon de traiter les plantes et les animaux, surtout les animaux d'ailleurs, qui est tout à fait singulière, et que j'ai décidé d'appeler l'animisme en faisant sortir de la naphtaline, si je puis dire, un concept très ancien en anthropologie, mais qui avait été discrédité par le côté un peu essentialiste qu'il avait, pour dire, voilà, il y a une façon de concevoir que des non-humains, non seulement ont une intériorité du même ordre que celle des humains, mais qu'on peut établir avec ces non-humains des rapports sociaux d'un certain type. Et c'est comme ça que, peu à peu, au fond,
s'est élaborée
une théorie plus générale une théorie des rapports de continuité, de discontinuité entre humains et non-humains qui échappe à cette grande division
nature-culture
qui me paraissait, qui paraissait encore à beaucoup de gens en Europe comme étant universel.
Dans Par-delà nature et culture, Philippe Descola, vous décrivez quatre ontologies. Il y a donc l'animisme dont vous venez de parler, le naturalisme, le totémisme et puis aussi l'analogisme. On va écouter tout de suite un extrait des mots et des choses de Michel Foucault qui parle justement de l'analogie.
Le pouvoir de l'analogie est immense, car les similitudes qu'elle traite ne sont pas celles visibles, massives, des choses elles-mêmes. Il suffit que ce soit les ressemblances les plus subtiles des rapports. Ainsi allégée, elle peut tendre, à partir d'un même point, un nombre indéfini de parentés. Le rapport, par exemple, des astres au ciel où ils scintillent, on le retrouve aussi bien de l'herbe à la terre, des vivants au globe qu'ils habitent, des minéraux et des diamants aux rochers où ils sont enfouis, des organes d'essence aux visages qu'ils animent, des taches de la peau au corps qu'elles marquent secrètement. Par l'analogie, toutes les figures du monde peuvent se rapprocher. Il existe cependant, dans cet espace sillonné en toutes les directions, un point privilégié. Il est saturé d'analogies. Ce point, c'est l'homme. Il est en proportion avec le ciel, comme avec les animaux et les plantes, comme avec la terre, les métaux, les stalactites ou les orages. Dressé entre les faces du monde, il a un rapport au firmament. Son visage est à son corps ce que la face du ciel est à l'éther. Son pouls bat dans ses veines comme les astres circulent selon leur voie propre. Les sept ouvertures forment dans son visage ce que sont les sept planètes du ciel. Mais tous ces rapports, il les fait basculer. Et on les retrouve similaires dans l'analogie de l'animal humain avec la terre qu'il habite. Sa chair est une glèbe, ses os des rochers, ses veines de grands fleuves, sa vessie c'est la mer. Et ses sept membres principaux, les sept métaux qui se cachent au fond des mines. Le corps de l'homme est toujours la moitié possible d'un atlas universel.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, aujourd'hui en compagnie de Philippe Descola, anthropologue, auteur de Par-delà nature et culture, des lances du crépuscule, et aujourd'hui donc pour parler d'exploration et puis ce qui ressort à la suite d'une exploration, ou plutôt à la suite d'un voyage, à la suite d'un terrain, on va dire. On a renoncé au terme d'exploration et d'expédition depuis un certain moment. Quand on revient du terrain, on commence à mettre en place une pensée, une théorie, s'élabore aussi une méthode. On vient d'entendre cet extrait des mots et des choses de Michel Foucault. C'est un texte qui date de 1966. Cet extrait du chapitre 2, La prose du monde, un texte qui vous a inspiré pour décrire justement ces rapports, ces continuités entre humains et non-humains.
Oui, comme beaucoup de philosophes de ma génération, j'étais un fervent admirateur de Foucault. Et donc c'est un texte que je connaissais bien, et je l'ai relu au moment où je commençais à travailler de manière systématique sur cette question des rapports de continuité et de discontinuité entre humains et non-humains. Et il se trouve que je lisais à peu près en même temps un grand classique de la sinologie qui est la pensée chinoise de Marcel Granet. Et j'ai été frappé par les analogies précisément qu'il y avait entre ce que Michel Foucault décrivait de la pensée de la Renaissance, une pensée par analogie, par convenance, par proximité, et ce que Marcel Granet disait de la pensée chinoise, où il écrivait à peu près dans la pensée chinoise, tout est gouverné par l'analogie. Et alors que l'on avait l'habitude, depuis Leibniz, d'opposer la pensée chinoise à la pensée européenne, à la pensée philosophique européenne comme étant marquée par des formes, des concepts et des formes de conceptualisation extrêmement différentes, il m'a paru au contraire qu'il y avait une grande proximité entre les deux. Et c'est à ce moment-là que j'ai développé cette idée de ce que j'ai appelé l'analogisme, c'est-à-dire l'habitude de donner de l'ordre dans la diversité perçue des éléments du monde en articulant ces éléments par des relations de correspondance. L'idée qui est présente aussi bien dans la pensée de la Renaissance que dans la pensée médiévale, que dans la pensée chinoise ou dans la pensée des communautés amérindiennes du Mexique ou des Andes, c'est donc que dans un monde composé d'une très grande quantité de singularités, qu'en chinois on appelle les Wangwu, les 10 000 états ou les 10 000 attributs ou les 10 000 essences, hein, c'est-à-dire c'est les éléments du monde, il faut pouvoir entre ces éléments extrêmement divers, pour pouvoir habiter le monde tout simplement, pour pouvoir le penser, pour pouvoir le vivre au quotidien, il faut pouvoir trouver des formes de connexion entre ces différents éléments. Et la connexion la plus commune, c'est l'analogie. Alors, le raisonnement analogique, il existe partout. C'est une propriété de la pensée humaine.
Mais il est redoutable, parce qu'il peut être sans fin.
Il est sans fin, et c'est pour ça que je suis content que vous ayez choisi cet extrait de Michel Foucault, parce qu'il a mis le doigt sur la chose importante, évidemment. C'est que c'est l'homme qui permet de réduire, dans ce système d'interprétation, à un gabarit, qui est sa propre personne, la suite infinie des analogies qui, comme vous le dites, en effet, n'a pas de fin. Et donc, c'est pour ça qu'on trouve, au fond, peut-être que l'indice, le symptôme le plus clair de ce que j'appelle une ontologie analogiste, c'est ça, c'est-à-dire c'est la correspondance entre macrocosme et microcosme. Ça n'a aucun sens pour les Indiens d'Amazonie, ça, la correspondance entre macrocosme et microcosme. Ils s'en fichent, le corps n'est pas un microcosme en ce sens-là. Ça n'a aucun sens pour les Inuits, ça n'a aucun sens pour les aborigènes australiens, etc. Mais il y a des civilisations qui ont fondé, en quelque sorte, leur intelligibilité du monde sur ce filet de correspondance qui peut exister entre la personne humaine vue comme un monde en miniature, comme une écologie de relations complexes, et puis le vaste monde qui en est une manifestation à une autre échelle. Et si la façon la plus simple, encore une fois, de définir ce que c'est qu'une ontologie analogiste, c'est une ontologie dans laquelle la correspondance entre macrocosme et microcosme joue un rôle fondamental.
Vous décrivez donc 4 ontologies dans Part de la nature et culture, Philippe Descola. Donc il y a l'analogisme, l'animisme, le naturalisme et le totémisme. Cette théorie que vous avez construite sur plusieurs années, est-ce que vous avez aussi pour ambition qu'elle dépasse justement les frontières proprement théoriques? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait du terrain, une fois que la pensée s'est construite, une fois qu'on a atteint, on pourrait peut-être dire même une forme de connaissance, comment sensibiliser au-delà des frontières du champ anthropologique l'opinion publique ou la plupart des gens aux questions que vous soulevez finalement, à cette nouvelle manière de voir les choses, à cette altérité que vous avez pu rencontrer sur le terrain et que finalement on n'aurait pas forcément idée. Alors peut-être il y a le tourisme, peut-être il y a les guides de voyage, peut-être il y a les documentaires, mais finalement cette manière de penser et de théoriser ce qu'on a vu sur le terrain, comment la communiquer?
C'est ce à quoi je m'emploie de façon qui m'est la plus familière, c'est-à-dire en faisant des cours, des conférences et des publications, dans plusieurs domaines. C'est-à-dire, il ne faut pas voir cela comme une sorte de machine à trier les civilisations, ça n'aurait guère de sens. Ce que j'ai essayé et que je continue à faire de mettre en évidence, c'est quels sont les principes, les invariants en quelque sorte, qui permettent à des humains de faire des inférences quant à l'identité des objets autour d'eux. Et on trouve un peu partout dans le monde l'une ou l'autre de ces formules, quelquefois sous une forme très évidente, en Amazonie avec l'animisme, en Chine ou à la Renaissance avec l'analogisme, la plupart du temps sous une forme beaucoup plus hybride et complexe. Mais ce que cela a comme conséquence, c'est que ça nous invite à remettre en question les concepts au moyen desquels, en Europe, nous avons objectivé le monde précisément, concepts que nous employons à tout moment et que nous avons, en quelque sorte, diffusés, disséminés ailleurs dans le monde. Concepts de société, de nature, de culture, d'art, de religion, qui sont tous des concepts extrêmement eurocentriques et qui sont fondés sur une expérience historique tout à fait singulière, qui est celle de l'Europe, qui a tenté de s'objectiver elle-même au cours en particulier des derniers siècles, et qui a des conséquences évidemment politiques aussi.
Mais j'ajouterais aussi, Philippe Descola, comment pouvons-nous avoir conscience des rapports qu'on a avec cette nature, en prendre conscience et les transformer à partir de là en se disant il y a une autre manière de faire. Alors même que ces rapports-là, comme vous le dites aussi et comme vous l'avez vu sur le terrain, ne sont pas des rapports qui sont conscientisés.
Oui, mais nous non plus. Nous avons naturalisé le naturalisme.
Du coup, comment transformer comme ça a été naturalisé, comment transformer, comment prendre conscience de cette naturalisation de notre côté ?
Alors, il faut pour cela un travail critique qui nous conduit en amont de ces catégories, de ces concepts que nous employons au jour le jour et que les sciences sociales nous ont légués, que la philosophie des Lumières nous a légués, que les sciences sociales ont repris, et un travail en amont pour essayer de conceptualiser des formes. Alors, je vais prendre un exemple très bref, c'est celui, au fond, de la société. La société, c'est le concept au moyen duquel nous décrivons partout dans le monde des associations d'humains qui se sont donné des conventions, qui vivent plus ou moins selon leurs règles et dont on peut tenter d'établir des limites plus ou moins poreuses vis-à-vis d'autres sociétés qui ont des caractéristiques différentes. J'ai suggéré, reprenant un concept, ou enfin en tout cas un terme que Bruno Latour avait employé et qui est celui de collectif, j'ai suggéré d'employer le terme de collectif parce que dans le terme de collectif, on ne préjuge pas de la nature des êtres qui sont assemblés dans un collectif. Il peut y avoir soit des humains qui sont en rapport avec d'autres collectifs, gouvernés par des relations sociales aussi de non-humains. C'est le cas en Amazonie. Vous avez ce que j'appelle la tribu espèce des Achuar, qui est engagée dans un rapport plus ou moins antagonique avec la tribu espèce de leurs voisins, Quechua par exemple, mais aussi des Toucans, des Pécari, de telles races d'esprit, etc. Mais vous avez aussi, dans le monde andin, par exemple, des collectifs qui regroupent des humains, des troupeaux, des territoires, des sanctuaires, des montagnes, des sources, etc. Et dans lequel c'est l'ensemble de ces composantes qui forment collectif. Et donc, couper en quelque sorte une société d'humains à l'intérieur de ce tissu fourmillant d'être n'a guère de sens si l'on souhaite comprendre comment d'autres collectifs ailleurs du même ordre se gouvernent et se constituent. On pourrait même, à la limite, considérer que le monde chinois est lui-même un vaste collectif d'humains et de non-humains qui s'évertuent sous la direction du Parti communiste chinois à propager une nouvelle façon de concevoir les formes d'association ou d'agrégation des êtres dans le monde. Et donc il y a un travail déjà de ce type qui est un travail de description et de reconceptualisation qui devrait nous permettre d'échapper à l'eurocentrisme pour mieux décrire le monde tel qu'il est et donc pour mieux tenter de le transformer.
Merci beaucoup Philippe Descola. Je rappelle que l'on peut lire de vous La composition des mondes, ce sont des entretiens avec Pierre Charbonnier, c'est paru en folio essai en 2017. Par-delà nature et culture, c'est paru aussi en folio essai en 2015. Et puis aussi parce qu'on a entendu sa voix et on a entendu un de ses textes, Claude Lévi-Strauss, Un parcours dans le siècle. C'est un ouvrage collectif que vous avez dirigé, Philippe Descola. C'est paru chez Odile Jacob en 2012. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Adèle Vendrette bien sûr, David Pargamin, Marianne Chassor, Claire Perriman-Holt, Louis Servet, Olivier Bétard à la réalisation, Yvan Moran à la lecture des textes cette semaine et Yanis Joudad à la prise de son aujourd'hui. Rendez-vous demain pour la dernière étape de nos explorations. Et demain, nous irons de la Serbie au Japon sur les traces de Nicolas Bouvier en compagnie de Nadine Laporte. Mais d'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez l'écouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster et y trouver toutes les références bibliographiques et musicales. Et puis rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Chemins de la Philo pour retrouver toutes nos émissions. Vous écoutez France Culture. À midi, vous avez rendez-vous avec Raphaël Bourgois pour la Grande Table. Mais maintenant, à 11h, c'est Culture Monde par Tiffaine de Roquigny.